Vous avez de la chance, c'est jour de visite aujourd'hui. Ah. Monsieur Lebrun, que voici, vous accompagnera.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Vous avez de la chance, le témoin de ce vendredi, c'est François Schuiten qui va nous parler de Bruxelles.
Les Bruxellois sont quoi? Des Bruxellois?
Ah, ils sont écrasés par personne, ils sont Bruxellois, Bruxellois à part entière et parfaitement contents de leur sort.
Mais on dit aussi que le Bruxellois est un kikkefretter. Qu'est-ce que c'est un kikkefretter?
Ah, un kikkefretter, ça veut dire les amateurs de poulet.
Depuis le XVe siècle, Bruxelles est capitale, mais ce fut longtemps d'une principauté englobée dans un ensemble plus grand. Après l'indépendance de 1830, la voilà appelée à devenir le symbole et le creuset de la Belgique royale. Dans la vieille ville des Flandres, se développe alors l'immigration wallonne. Aujourd'hui que l'agglomération est devenue millionnaire, accumule 10% de la population du pays, 20% du PIB, on y entend peut-être au total 100 langues, tant l'internationalisation est avancée. Du vieux parler bruxellois demeure, heureusement, l'humour ravageur. Il est vrai qu'il est plus nécessaire que jamais. L'urbanisme qui a abouti à maintes catastrophes relève de la sismologie. Quant à la situation politique, il faut être spécialiste de la tectonique des plaques pour l'envisager. Ce dimanche 25 mai, les élections générales en Belgique vont encore allonger les distances entre les trois régions de la Belgique, dont Bruxelles est la capitale fédérale, quant à l'Union européenne, dont elle est capitale de facto. Les élections du même jour accentueront ces divergences. François Schuiten, bonjour.
Bonjour.
Qu'on peut présenter comme l'horloger du rêve.
Oui, si vous voulez.
Quand vous essayez de rassembler vos 9 vies, parce que vous êtes scénographe, bédéiste, vous pourriez presque être architecte, vous mettez des histoires dans des cases qui peuvent être des stations de métro, comme Arts et Métiers à Paris, vous ne trouvez pas de meilleur terme qu'horloger du rêve.
Oui, celui qui a écrit ce livre, qui a trouvé ça. Et en tout cas, graphiquement, il me plaît beaucoup.
C'est chez Casterman, comme la presque totalité de vos œuvres écrites. On dit comment, parce que vous avez consacré un très bel album avec Peters à Bruxelles. Vous n'avez
oui,
pas, on dit Bruxelles.
Bruxelles, parce qu'il y a plusieurs orthographes. Il y a l'orthographe flamande, l'orthographe francophone et l'orthographe anglaise, l'orthographe allemande. Alors on a trouvé, nous, une façon de résoudre tout ça avec notre propre orthographe, qui est en fait le vrai Bruxelles.
Mais de toute façon, Bruxelles, c'est le symbole du pire.
Et du meilleur. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on le stigmatise, on parle de bruxellisation, c'est-à-dire une dégradation du patrimoine architectural d'une ville. Donc, c'est beaucoup de choses pour une seule ville, et en même temps, elle a des qualités qu'on oublie un peu.
Et quand on désigne les mots de l'Union européenne, on ne dit pas Union européenne, on dit Bruxelles.
Oui, c'est très agaçant, d'ailleurs, surtout à ce moment-ci, où on voit que les pays ont l'art de récupérer. Maintenant, ils sont un peu inquiets, ils voient que l'Union européenne accumule tous les mots, alors ils sont un peu inquiets. Ils sont déresponsabilisés pendant très longtemps sur l'Union européenne. Et effectivement, Bruxelles est là pour incarner ça. Et ça me fait un peu de peine de voir que cette ville, comme ça, en plus de ses difficultés, accumule cette image.
Alors, vous vous passionnez aussi pour Paris. Vous êtes en train de préparer une exposition qui aura lieu à la fin de cette année à la Cité de l'Architecture sur le thème des utopies du rêve de Paris. Dans les rêves de Paris, il y a l'osmanisation. Quand Bruxelles devient l'expression de la nation belge, on a pensé, chez les dirigeants du royaume, à une osmanisation.
Oui, c'est Léopold II qui est un souverain assez puissant, puisqu'il a offert le Congo à l'État belge. Donc c'est quand même une situation assez extraordinaire. Et il a une vision assez importante pour cette ville. Et c'est en regardant Paris, en regardant Haussmann, qu'il impose un peu le dessin de l'avenue de Tervuren et de toute une série de transformations qui ne mènera pas au bout, hélas. Parce que je crois que ça aurait fait beaucoup de bien à la ville.
Mais le vrai Haussmann, c'est Ansbach, le bourgmestre.
Ansbach va faire des très très gros travaux une qui va rester dans l'histoire, c'est le couvrement de la Seine.
Alors Seine, attendez, hein. Oui, Seine. Paris, c'est Paris, oui. Bruxelles, c'est Bruxelles. Seine, vous écrivez ça.
S-E-2-N-E. Oui, nous avons notre Seine à nous, plus petite.
C'est autour de la Seine que s'était organisé le port de Bruxelles ?
Oui, il y avait un petit port, effectivement, le marché aux poissons et tout ça, c'était assez, assez beau. Et ce couvrement de la Seine va être assez redoutable parce qu'on aurait pu prendre d'autres décisions d'assainir, dans tous les sens du terme. Hélas, on a pris la décision la plus radicale et c'est pas la seule fois. C'est une ville comme ça qui a des audaces un peu dévastatrices. Et on décide donc de couvrir. Et d'ailleurs, on fait appel à des architectes français pour venir construire toute une série de rues qui vont être au-dessus de cet égout.
Mais c'est quand même un architecte belge à qui on ne connaît pas d'autres titres de gloire qui est confié le soin de disposer une sorte d'éléphant qui sera l'expression de la nation au-dessus de Bruxelles et pour lequel vous avez une admiration qui n'est pas nécessairement partagée. C'est le palais de justice.
Oui, le palais de justice, c'est le plus grand palais de justice du monde. Donc un bâtiment totalement hors norme qui est construit par Joseph Poulart. Alors il a été choisi, il a très peu construit et il est dans le jury en plus. Il réussit à imposer son projet parce qu'il trouve que tout ce qui a été présenté n'est pas à la hauteur. Et la construction va durer près de 20 ans, va ruiner les caisses de la ville. Et le bâtiment est absolument hors norme.
C'est sûr que c'est le monument le plus élevé, non seulement des palais de justice, mais des bâtiments du 19e siècle.
Oui, c'est babylonien. Et c'est vrai qu'il y a 70% d'espace inutile, d'espace vide. C'est une magnifique mise en scène de la justice.
Enfin, vous dites magnifique, mais les habitants de Marolles, sur oui. le territoire duquel était construit le palais de justice, quand il a fini par ouvrir...
Oui. Ils ont tout démoli.
Ça, c'est extraordinaire.
Oui, parce que d'ailleurs, le terme architecte est une injure dans ces quartiers, tellement que le traumatisme est profond. On parle même de skive, un architecte. Le terme bruxellois pour dire architecte qui construit un peu tout de travers. Et donc, l'expression est durable parce que le traumatisme est profond. Le bâtiment a démoli une partie des Marolles. Il voulait encore continuer. D'ailleurs, il aurait voulu un immense escalier qui serait parti du bas des Marolles et qui aurait monté jusqu'au palais. Vous
Alors,
imaginez
on peut dire
le. La mise en scène.
Ce bâtiment a inspiré pas mal de personnes. Hitler avait demandé à Albert Speer ouais. d'en faire le dessin. Mais ce qui vous intéresse le plus, vous, c'est que Edgar P. Jacobs, l'homme de Black et Mortimer, serait né...
Juste dans une ruelle qui en dessous du palais. Donc il a dû jouer dans le terrain vague qui a longtemps été là en dessous de la construction pour justement recevoir cet immense escalier qui ne s'est jamais fait. Et je suis certain, moi, qu'il a rêvé de la grande pyramide face à ce palais, parce que c'est une immense construction qui d'ailleurs devait culminer par une pyramide. Très très influencé par la franc-maçonnerie, il est codé, il est vraiment construit suivant des règles, suivant des tas de schémas qui d'ailleurs donnent encore beaucoup de sujets à étude. C'est un bâtiment très mystérieux.
Alors un jour vous allez consacrer un livre complet
oui.
au Palais Royal.
Oui, oui, j'y reviens constamment et pour moi c'est un bâtiment qui cristallise un petit peu toutes les contradictions de la Belgique, l'étrangeté de la Belgique. Là il y a un échafaudage depuis 30 ans autour de ce bâtiment et on est en train de restaurer l'échafaudage, à défaut de restaurer le bâtiment lui-même. C'est pour vous dire que tout est hors norme.
Poulart meurt en 1879, comme le bourgmestre Anspach, et c'est un peu plus tard, un quart de siècle à peine plus tard, que les ouvriers, qui avaient eux aussi l'intention de s'inscrire dans l'urbanisme, ont la joie d'inaugurer la maison du peuple de Horta.
Oui, chef-d'œuvre. C'est Jean Jaurès qui inaugure ce bâtiment en disant que le ciel rougeoirait face aux événements qu'accueillerait cette maison du peuple. C'est un bâtiment tout à fait unique. Hélas, et ça exprime vraiment un petit peu l'aveuglement des Bruxellois. On le démolira au début des années 60. Et on aurait sans doute là le bâtiment le plus extraordinaire d'Europe.
Comme on a failli laisser s'effondrer alors un bâtiment religieux, symbole d'une des identités de la Belgique, le catholicisme. Je veux dire quoi ? La cathédrale Saint-Michel ? La collégiale Sainte-Gudule ?
Sainte-Gudule.
Comment ça ? Vous dites Sainte-Gudule ?
Oui, moi...
Mais l'Église catholique, depuis qu'elle en a fait une cathédrale, dit que c'est Saint-Michel parce que Sainte-Gudule n'a jamais existé.
Oui, c'est ce qu'ils disent. Moi, je trouve que Sainte-Gudule, c'est tellement plus sympathique et ça exprime tellement la Belgique et Bruxelles que je reste attaché à ce nom.
Oui, mais projeté dès le 19e, engagé dès 1911... La jonction par une tranchée, un tunnel des deux gares du Nord et du Midi a failli faire s'effondrer Sainte-Gudule, Saint-Michel.
À Bruxelles, la collégiale de Sainte-Gudule est en observation comme une malade. On craint en effet que l'ouverture d'une profonde tranchée, située à 50 mètres de la façade et destinée à la jonction des gares du Nord et du Midi, n'est une influence qui pourrait être catastrophique sur la stabilité des tours de la collégiale. Afin de prévenir tout danger, des pendules de haute précision permettant de déceler les inclinaisons au 400 millième ont été placées en différents points des fondations de chacune des tours. C'est M. Paul van der Hagen, fils du professeur, qui est chargé de les examiner chaque jour. Les Bruxellois ont confiance en lui et ne font pas encore de détour pour éviter la place Sainte-Gudule. Sainte-Gudule résistera à la réalisation de la jonction. 500 ans d'existence lui ont donné confiance dans l'avenir.
C'est comme dans vos albums, François Chuitani a toujours un professeur fou dont le nom étrange surgit dans un coin. La jonction Nord-Midi rend illisible une partie de la ville.
Oui, ça va couper un petit peu en deux la ville haute et la ville basse. C'est une cicatrice dont on voit encore d'ailleurs les signes. Ça a été un des plus gros chantiers de la ville, 50 ans. Ça a été commencé avant la Première Guerre mondiale et ça va terminer dans les années 58, je crois. Là aussi, on aurait pu trouver d'autres solutions. Le contournement, la couper en deux, c'est un petit peu la brutaliser, la violer, c'est-à-dire qu'on a toujours pris des décisions comme celle-là, presque amener les autoroutes au cœur de la ville, il y avait des projets comme cela, ou survoler. Là. Pour l'instant, il y a tout un débat autour du survol de Bruxelles. C'est une ville traversée, c'est une ville brutalisée comme ça par la route.
Vrai, il n'y a pas encore de téléphérique, alors que le téléphérique devient très à la mode dans beaucoup de villes du monde.
Oui, j'en rêverais, ça permettrait d'être un peu plus léger.
Ouais. Alors vous naissez en 1956... Je ne me trompe pas. Dans une maison ?
Oui, dans une maison un petit peu en dehors de Bruxelles, mais très liée à la ville.
Fils d'un architecte, vous n'avez pas de souvenir de l'exposition de 1958 ?
Non.
La seconde grande exposition universelle de Bruxelles, c'est une date très importante.
Mais par contre, c'est une exposition qui a marqué les esprits profondément. Les Belges ont gardé un souvenir extraordinaire de cette exposition, parce qu'il y avait évidemment l'après-guerre, et la Belgique est en train de se remettre de tout ça plus rapidement que bien d'autres pays européens. Et l'expo incarne un petit peu ce renouveau, cette vision du futur avec l'atomium, avec cet objet insolite qui est là pour incarner la modernité.
Mais vous êtes aussi assez satisfait de la présence d'un grand concours de peuple auprès des Belges. Vous parliez du Congo belge avec presque nostalgie tout à l'heure. En 56, le Congo est toujours belge. Et le Rwanda et le Burundi.
Oui, mais bon, l'histoire, les rapports entre la Belgique et le Congo, c'est une très longue histoire, très, très cruelle d'abord. Ça a commencé par des dimensions. Le roi Léopold II n'était pas très sensible aux droits de l'homme, je crois. Et donc, on est là sur déjà des difficultés qui vont exploser par la suite.
Donc, pour l'instant, en 58,
tout va bien.
Tout va bien.
Entre guillemets.
Ouais.
C'est sûr que le fait de se séparer du Congo fait un premier changement important.
Alors on reste, nostalgie, à cette époque où Bruxelles est le rendez-vous des nations.
Le roi Baudouin, accompagné par le prince Albert, la famille royale, les membres du gouvernement et les dignitaires de la cour, a ouvert officiellement cette grandiose manifestation à qui toutes les nations présentes ont voulu donner un sens précis à leur participation en établissant un bilan du monde moderne qui se situe à l'aube de l'ère nucléaire. Le symbole de l'Expo 58 est l'atomium. 9 sphères de 18 mètres de diamètre stylisent l'atome d'un cristal de métal grossi 150 milliards de fois.
Les 9 sphères de 18 mètres de diamètre sont reliées entre elles par des tubes de quelques 30 mètres de longueur. Leur traversée est assurée par des escalators, dont l'un de 35 mètres est le plus long du continent. Sa masse imposante fait maintenant partie intégrante du ciel de Bruxelles, comme la tour Eiffel fait partie du ciel de Paris.
On était tous les jours à la fête. C'est bien simple, la plupart des Belges ne sont pas partis en vacances cette année-là.
Je faisais surtout quand il y avait du vent, parce qu'alors ça bougeait.
On se demande comment il tient. Évidemment, il a été calculé par un ingénieur un peu fou, M. Waterkane, qui a réussi à faire tenir un bidule un peu bizarre quand même.
La tête vue du haut de l'atomium, Bruxelles centre, Bruxelles centrum, l'OTAN, le ship, même le ratom. Enfin, t'as peut-être vu tous les hommes, t'as peut-être vu le marché aux puces, le champ de bataille de Fleurus, les gildes vaches en plumes d'autres russes. Enfin, t'as peut-être vu tous les us, mais
as-tu vu, joli touriste, dans mon pays de religion? Une brasserie sans trappiste, un coin de ciel gris sans un clocheton.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec François Schuiten, nous parlons de Bruxelles à la veille des élections générales belges et des élections européennes, évidemment. On entend encore un instant André Bialek, parce que vous le connaissez. Il est un peu plus vieux que vous, d'une dizaine d'années.
Je ne le connais pas, mais c'est vrai que je me souviens avoir écouté sa musique il y a très très longtemps déjà. Il a changé d'activité, je crois.
Oui, maintenant il tient une agence de pub.
Oui, voilà.
C'est un Polonais d'origine. Alors, parlez-nous des immigrations belges et de leur disposition dans la ville. Vous avez un nom flamand.
Oui, c'est vrai.
Mais vous êtes d'une famille immigrée wallonne?
Oui, mais en fait, même du côté de ma mère comme du côté de mon père, on vient de Hollande. Et puis, je pense qu'ils sont arrivés en Flandre. Et curieusement, je parle assez peu le flamand. Donc, c'est toutes les contradictions de ce pays. Et même, je dirais, les déchirures de ce pays. Je me sens assez flamand, curieusement, dans ma tête. Donc, c'est vrai que Bruxelles est une ville traversée par aussi les multiples cultures.
Alors, les immigrations, dans quel ordre sont-elles venues? Les ouvriers de l'Afrique du Nord, de l'Europe méditerranéenne, de la Pologne, comme le père d'André Bialek, et puis ensuite les Congolais.
Oui, bien sûr, l'Afrique, mais aussi l'Italie d'abord, et puis le Portugal, mais maintenant il y a tout un quartier turc assez important, et un quartier africain, le quartier Matongé, qui est très connu, et qui est vraiment une petite Afrique. C'est un quartier polonais qui va se créer. Enfin, c'est vraiment particulier parce qu'on a une forte immigration qui est vraiment au cœur de la ville.
Mais les immigrés nouveaux venus, parfois les plus pauvres, sont au centre.
Oui, c'est évidemment une façon d'intégrer cette population. Ils sont plus naturellement inscrits dans la vie bruxelloise que si on les avait rejetés aux alentours. Mais il faut dire que Bruxelles est construite très bizarrement puisque les riches ont quitté la ville. Ils sont autour, dans les quartiers verts, dans les communes. Et j'ai découvert parfois un manque de culture des Bruxellois eux-mêmes, qui l'ont abandonné et qui ont oublié de la regarder. Peut-être que ça appartient vraiment à l'étrangeté de ce pays, c'est que c'est un pays jeune. Et donc, il lui manque un petit peu l'identité qui fait qu'on a envie de défendre sa ville.
Alors, quand vous êtes adolescent, c'est le moment où Bruxelles devient de facto la capitale de ce qu'on appelle à l'époque la communauté européenne, et puis que se cristallisent de plus en plus d'activités internationales, commerciales, bientôt financières. Voici le professeur Jacques Aron. C'est pas facile à la radio de se figurer le plan d'une ville, mais la déclinaison, la litanie des noms qu'il va utiliser avec son crayon feutre et qu'il applique sur un plan vont être évocatrices.
Le problème qui a fortement compliquer la situation à Bruxelles, c'est la concentration progressive de l'emploi dans le centre de Bruxelles. Concentration que l'on peut illustrer sur cette carte de l'agglomération de Bruxelles, donc des 19 communes, sur laquelle je vais tracer ce que l'on peut appeler la city bruxelloise, le centre des affaires, des administrations publiques et privées. Si nous partons du boulevard Nord-Midi qui coupe le Pentagone en deux parties, que nous remontons au-delà de la gare du Nord le long du chemin de fer, empruntons l'avenue Rogier et puis la ceinture de boulevards, boulevard Louis Schmitt, boulevard Général Jacques, que nous arrivons au bois de la Cambre. Et si nous redescendons vers la ville par la chaussée de Waterloo, la barrière de Saint-Gilles, la porte de Halle, nous avons à peu près tracé cette city.
Oui, mais enfin, cette city, il a beau mettre de l'ordre, le professeur Aron, c'est un lieu de brutalisation, de chaos organisé. Et c'est là qu'on va venir au mot de bruxellisation.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs phénomènes, plusieurs traumatismes, comme on l'a dit, le couvrement de la Seine, le palais de justice, la jonction Nord-Midi, et puis la création de boulevards, de viaducs qui ont donné à la voiture une place trop importante. Donc des décisions pour le tout voiture. La décision du métro est arrivée assez tard. La ville est dans sa structure encore une ville ancienne. Elle n'a pas eu justement Haussmann pour l'ouvrir vers une certaine forme de modernité. Et donc le choc est encore plus violent. de ce fait-là. Et c'est sûr qu'il y a des décisions qui sont un peu malheureuses. On a un peu saupoudré la ville. Au lieu de concentrer la modernité, un nouveau type de fonctionnement, je dirais, d'immeubles, on a un peu comme ça fait du saupoudrage, ce qui la rend un peu chaotique. Dans
oui, enfin, attendez, là, vous maniez l'euphémisme, François Schuiten, oui. Quand on lit vos albums, chez Casterman, on voit des pelleteuses, des excavations, des démolitions. C'est pas du tout de saupoudrage.
Oui, oui.
C'est de la dévastation.
On a eu, je pense, à des moments, c'était vraiment de la dévastation. La création des bâtiments pour l'Union européenne ont été absolument redoutables. D'ailleurs, il reste au cœur de cette ville un immense bloc de bureaux, maintenant, qu'il va falloir se réapproprier, parce que c'est une catastrophe en termes de liaison avec la ville. Le problème, c'est qu'on n'a pas décidé tout de suite que Bruxelles allait être la capitale de l'Union européenne. Vous savez, Bruxelles, c'est capitale de la Belgique, capitale de la Flandre, capitale de l'Union européenne. On a l'impression que c'est la capitale des capitales, avec le paradoxe qu'on y parle principalement français, alors qu'elle est la capitale de la Flandre. Donc, des tas d'étrangetés qui se sont accumulées sur cette ville.
Mais j'ai prendre une part de responsabilité pour la France. On se souvient peut-être que les armées de Louis XIV ont bombardé Bruxelles, oui, en 1697, déclenché des incendies.
C'était
la grande place a été dévastée, il a fallu le relever. Oui, mais vous autres Bruxellois, vous pouvez raser sans bombarder.
Oui, voilà. On s'est bombardé nous-mêmes, ce qui est assez remarquable. Mais par contre, ça a créé là aussi un traumatisme. Les Bruxellois sont très en réaction contre les moindres signes de chantier.
On va y venir, mais continuons à partager les responsabilités. Des architectes comme votre père, je ne sais pas s'il a pris directement part à tout cela, mais...
Pas mal, oui.
C'est une victime consentante?
Je pense,
de la bruxellisation.
Je pense que c'est une époque, juste après-guerre, où on a envie de renouveau. Les matériaux changent, les moyens de construire. Et donc, il y a certainement là un élan vers le progrès, et que les Belges vont prendre à bras-le-corps, peut-être plus fortement encore que n'importe quel autre pays.
Mais on parlait de l'humour bruxellois. Ça porte un nom, d'ailleurs, l'humour bruxellois.
Je ne sais pas.
Zwanze.
Oui, si vous voulez.
C'est comme ça,
oui,
mais je le prononce sûrement très mal.
Oui, c'est une façon de...
Cet humour fait que les Bruxellois, mais aussi les étrangers qui habitent Bruxelles, ont pris le parti d'en rire au total.
Oui.
Ça a quelque chose de comique, le chaos.
Oui, le chaos vous oblige en tout cas à être toujours en éveil. En même temps, c'est en cela que je l'aime, ce chaos, cet étrange patchwork, ce lieu de rencontre de ces plaques tectoniques, de ce bousculement de culture, ça rend en même temps la ville très troublante, très ouverte au monde.
Vous avez imaginé, j'imagine, le prix du plus mauvais bâtiment, non?
Oui, on a fait ça à une époque, c'est vrai.
Et alors, pour vous, c'est quoi?
Il y a beaucoup de concurrents.
C'est le caprice des dieux, le Parlement européen, le plus mauvais bâtiment?
Symboliquement, évidemment, il incarne une énorme erreur à tellement de points de vue que c'est difficile de le résumer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a au milieu de tout ça parmi les plus belles maisons d'Europe. Il y a l'Art Nouveau qui a fait naître les plus grands architectes et des qualités d'habitat avec des jardins. Vous savez que Bruxelles est 15 fois plus vert que Paris. Car les jardins, ils sont partout. Les îlots sont magnifiques. Dès qu'on entre dans des maisons, on découvre des îlots intérieurs qui ont une qualité rare. Et c'est ce qui fait que, d'abord, c'est beaucoup moins cher de vivre à Bruxelles que dans beaucoup d'autres capitales européennes.
Ah mais je savais tout ça parce que je suis allé à Bruxelles et puis j'ai vu, c'est arrivé près de chez vous. Le film, le faux documentaire imité du style striptease de Bellevaux et Paul Ward qui joue Ben. Alors, Ben, c'est un garçon apparemment cultivé, visiblement poète. On ne va pas dire quelles sont ses activités réelles et en quoi elles vont entraîner l'adhésion de l'équipe de télévision qui le suit, mais écoutons plutôt ce dégagement.
Comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique, hein? Bon, ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon tout le long des allées, tu vois, un peu dans le style cité balnéaire anglaise. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Regarde, qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça? La première chose qui te saute aux yeux? Les briques. C'est les briques rouges.
Ouais.
Et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang. Le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence. Mmh. Hein? Moi, personnellement, si j'avais dû concevoir ce genre de choses, j'aurais vu une habitation, tu vois, de plein pied, avec de grands parterres très aérés, un peu à la Frank Lloyd. Parce que tu sais, privilégier l'esthétique, c'est une chose. Privilégier le fonctionnel, c'est en être une autre. Et ces gens-là ont trop privilégié le fonctionnel. Ce que ne faisaient pas des gens comme Gaudi, qui faisait cette architecture magnifique, tu sais, cette architecture organique, tu vois, qui semblait partir dans ses eaux, ou même des gens comme Émile Horta, qui ont fait des choses magnifiques. Hein.
À part en matière de privilégier le fonctionnel, Ben, qui est en fait un assassin, un tueur à gages, est assez doué. Et alors, il cite de grands architectes, là, vous avez entendu.
Oui, bien sûr.
Gaudi, Horta, de nouveau.
Oui, bien sûr. Bruxelles a eu une période à la fin du siècle dernier, donc à partir de 1890 jusqu'à avant la Première Guerre mondiale, on a une qualité d'architecture extraordinaire. Extraordinaire. On a, je dirais même, un florilège de talents. Ça va un petit peu se casser après la Première Guerre mondiale, et c'est vrai qu'on manque de grands architectes contemporains à Bruxelles qui... On devrait faire confiance aux architectes belges et bruxellois parce qu'ils ont du talent, mais curieusement, on ne les voit pas.
Bah, on se méfie des gestes maintenant.
Oui, ça c'est vrai.
Il y a de quoi. Et qu'est-ce qu'on privilégie ? Vous-même, vous parlez jardin, espace vert. Vous allez bientôt nous parler comme Benoît Paulvert de cerisier du Japon. Le petit, la dent creuse.
Oui, qu'est-ce qu'on privilégie ? Ça dépend. Ce que je trouve aujourd'hui, c'est qu'on manque de vision, mais pas qu'à Bruxelles. Mais Bruxelles peut-être plus qu'ailleurs, parce qu'elle est enclavée dans des problèmes linguistiques, dans des problèmes liés au pouvoir décisionnel de cette ville, qui est très confuse, très compliquée. Donc, c'est une ville où on a difficile à imaginer comment elle va évoluer, comment elle va grandir. Difficile d'imaginer le grand Bruxelles, comme vous avez le grand Paris.
Ah bah j'aimerais bien que vous nous racontiez le millefeuille territorial quand même. Non, mais c'est intéressant en matière d'urbanisme parce que la réglementation doit être complexifiée. Donc il y a Bruxelles, les communes alentour, les communes à facilité sont englobées dans la région Flandre, dont Bruxelles est aussi la capitale. Construire quelque chose demande de recourir à des administrations non seulement sédimenté, mais contradictoire.
Exactement. Il faut vous dire que quand vous faites le plan, Bruxelles est sur le territoire flamand. Et donc, tout ça est assez compliqué. Quand les Flamands viennent, par exemple, se soigner dans leur capitale, souvent, ils ne retrouvent pas toujours la langue pour les recevoir. Donc, ça rend... Donc, c'est une ville, en fait, qui est mal aimée des Flamands, qui est mal aimée des Wallons, parce que ce n'est pas leur capitale. C'est Namur, la capitale de la Wallonie. Et qui est peut-être mal aimé des Bruxellois et qui est mal aimé des Européens.
Vous parlez de tectonique des plaques et vous dites que Bruxelles a une jambe sur une plaque, une jambe sur l'autre et qu'elle s'éloigne.
Oui, on a le sentiment que si un jour la Belgique se divisait, on ne sait jamais très bien ce qu'on ferait de Bruxelles. On pourrait peut-être faire une ville à part entière, comme Washington DC, donc la séparer de l'un et de l'autre, ou la donner à l'Europe. On ne sait pas très bien. Toutes les hypothèses sont en train d'être sur la table.
Comment voulez-vous que l'Union européenne, François Schuiten, accepte de faire un district européen ? Ça serait reconnaître que votre pays, la Belgique, est incapable de faire vivre ensemble des cultures différentes.
Je suis d'accord, mais comme on est devant une énigme, comme cette ville a l'air d'échapper à toute logique, il faudra bien qu'on trouve une solution, et il faudra bien inventer quelque chose. Mais en même temps, moi j'ai confiance dans justement le fait qu'elle est traversée par tant de choses, tant de désirs, tant de cultures. Et elle appartient maintenant à un autre monde pour moi.
Merci François Schuiten. Paris va rejoindre aussi à l'horizon de vos rêves bientôt votre œuvre. À la fin de l'année, une grande exposition à la Cité de l'architecture que vous préparez, et puis sur Bruxelles et tant d'autres sujets. Vos œuvres, Monsieur l'horloger des rêves, aux éditions Casterman.
Nous sommes tous belges, au fond.
Le belge, ça est un belge. Le belge, c'est un belge. On a dit dans le temps, skilden vrienden, savoir si on savait le dire en flamand. Et à ce moment-là, si vous ne saviez pas le dire, on vous coupait la gorge. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que moi, je veux aller à la côte, à la mer. Moi, j'aime pas les Ardennes. De toute façon, nous sommes des Belges, qu'on soit Wallon, qu'on soit Bruxellois ou qu'on soit Flamand, c'est la même chose, nous sommes des Belges, monsieur. C'est tout.
L'équipe de la Marche de l'Histoire avec en tête Marie Casanova, à la technique Alice Berger pour la préparation, Franck Olivard, Elinka Negulesco et Frédéric Martin.